Vous aimez la littérature?
J'aurais essayé de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Essayez de cambrioler un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai?
Alors, pour tous les gens qui auraient la très bonne idée de m'écouter de manière hebdomadaire, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une émission sur le rugby, surtout après la branlée qu'on a prise pour un point dans la Coupe du Monde de rugby. C'est absolument catastrophique. Je ne parlerai donc plus de rugby dans cette émission. Je ne parlerai que des essais qui me semblent, en tout cas d'un point de vue intellectuel, peut-être plus intéressants à traiter. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un bouquin qui vient de sortir, que je trouve très très passionnant. C'est le testament politique de Mikhail Gorbatchev, donc, et qui s'appelle « Le futur du monde global », dans lequel Gorbatchev, donc, dont je rappelle qu'il a été le dernier patron de l'URSS, hein, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, que c'est l'homme de la perestroïka, c'est-à-dire celui qui a fait effectivement basculer le monde dans lequel il vivait et qu'il dirigeait très largement, avec tout ce qu'on appelait les pays de l'Est, les démocraties populaires ou dites populaires. Et donc, ce qui me semble intéressant dans ce livre, c'est que Mikhail Gorbatchev va s'intéresser au repli identitaire sous toutes ses formes. Et il dit, dans un monde multipolaire, ravagé par les inégalités, menacé par le populisme, il réaffirme les grands principes démocratiques qui l'ont animé tout au long de sa carrière politique. Donc il demande à ce que l'Europe, et en particulier l'Allemagne, prenne ses responsabilités pour assurer un rôle de médiateur dans le concert des nations. Et il dit « paix, liberté, coopération internationale » sont les maîtres mots de ce manifeste politique. Je voudrais vous lire un petit extrait qui va vous montrer un petit peu l'état d'esprit, en tout cas le type de discours que peut tenir Mikhail Gorbatchev, qui n'a évidemment plus de carrière politique à faire, et donc il ne s'agit pas d'un discours qui pourrait être empreint de langue de bois ou de démagogie. Il dit... Et il traite donc de la vague du populisme et le déclin de la démocratie. Il dit « Une avalanche de problèmes s'est abattue sur le XXIe siècle. Nous devons reconnaître que nous étions mal préparés pour leur trouver des solutions. Quand je dis « nous », j'entends les principaux hommes politiques ainsi que les partis, mais aussi la société dans son ensemble. Les gens veulent des actes et ils ont un instrument pour donner du poids à cette revendication, pour exiger que la politique apporte des réponses aux questions non résolues. Cet instrument... c'est pratiquement le seul dont ils disposent, c'est leur bulletin de vote. Les manifestations, les protestations organisées dans la rue, les grèves, tout cela est légitime dans le cadre des lois en vigueur, mais ce sont les électeurs qui ont le dernier mot. Et cela fait à présent 10 ou 15 ans qu'ils votent d'une manière que ce à quoi s'attendent les partis. Et donc, partis traditionnels qui sont succédés au gouvernement pendant de nombreuses décennies. On voit de plus en plus arriver au pouvoir des hommes politiques et des partis que l'on qualifie généralement de populistes. Les partis qui représentaient le spectre politique au cours de cette époque révolue s'inspiraient d'idéologies dont les racines remontent au XIXe siècle. Les principales étaient les idéologies libérales, conservatrices et social-démocrates. Il s'avère aujourd'hui que ni en soi, ni collectivement, elles n'apportent de réponse aux défis du nouveau millénaire. Est-ce pour cette raison que nous vivons le déclin ou même la fin de ses idéologies? J'aimerais d'ailleurs revenir sur le thème du populisme. Qui vote pour lui? Dans une large majorité des cas, ce sont des citoyens qui se soucient de l'avenir de leur pays, de leur famille, de leurs enfants. Ce sont des perdants de la mondialisation qui, jadis, faisaient partie des classes moyennes et voient à présent leur niveau de vie baisser en permanence. Les statistiques montrent qu'au cours des dernières décennies, les revenus réels de la classe moyenne, loin de s'accroître, n'ont cessé de diminuer. Et cela en dépit des énormes succès scientifiques, des nouvelles technologies, de la numérisation de tous les domaines de l'existence. On pourrait croire que toutes ces conquêtes ont ouvert des perspectives insoupçonnées à la civilisation humaine et à chaque individu. Sauf que ce n'est pas le cas. Peut-on s'étonner alors que les électeurs se prononcent contre les partis traditionnels, qu'ils votent pour ceux qui critiquent impitoyablement ces formations et promettent qu'ils assureront l'ordre, entre guillemets, et nettoieront les écuries? Ce sont souvent des promesses vides et dépourvues de tout fondement. Pire encore, loin de déboucher sur une amélioration des conditions de vie, de ceux que les bouleversements des décennies passées ont poussés dans le camp des vaincus, elles provoquent au contraire un enrichissement constant des riches. Mais je ne peux pas condamner ceux qui votent pour les démagogues. Ils ont toujours été dans la nature de l'homme de suivre de prétendus sauveurs en politique. Par ailleurs, les gens ne votent ne voit manifestement pas d'autre possibilité de signaler au système politique et à ses représentants que quelque chose doit changer. Telles sont mes réflexions lorsque je vois à la télévision les visages de ceux qui ont accordé leur suffrage aux populistes et aux démagogues. À eux, il n'y a rien à reprocher. Mais savoir si leurs représentants élus trouveront des réponses aux problèmes et aux défis actuels est une autre histoire. Je suppose qu'il y aura d'amères déceptions. En politique, il n'y a ni réponse simple, ni panacée.